Nous sommes ici pour parler de justice digitale, numérique, je ne sais plus, justice informatique. Et avec trois remarquables panélistes, trois remarquables intervenants. Si vous avez trouvé le nom de Dominique Douai sur le programme, sa santé l'empêche de venir. On le regrette parce qu'on l'aime tous beaucoup. Mais ce n'est pas grave, il y a des gens très bien qui sont ici. À commencer par Olivier Paquet. Qui est diplômé en sciences politiques, qui a écrit plusieurs romans. Parmi les plus connus, il y a peut-être la trilogie du Melkin, qui est parue à l'Atalante entre 2012 et 2013, et plus récemment Le Jardin d'hiver, mais je suis loin d'avoir épuisé la liste. Laurence Sunner, qui écrit depuis son plus jeune âge, c'est-à-dire hier environ, a écrit aussi une trilogie, aussi à l'Atalante. Putain, les mecs, vous manquez d'originalité. Tout le monde fait des trilogies à l'Atalante. C'est la trilogie Quantica, dans le cas de Laurence, qui, le dernier volume est paru juste l'an dernier ou cette année. Voilà. L'an dernier, voilà. Donc, trois beaux volumes solides de Space Opera qu'on vous conseille fortement. Hugo Bellagamba, vous le connaissez tous comme... le président débarqué, mais non, il est parti vers de nouvelles aventures. Il a coordonné, bien sûr, les Utopiales, la partie artistique, on dit, jusqu'à l'an dernier. C'est aussi un spécialiste d'histoire du droit et c'est aussi un écrivain que nous apprécions beaucoup. Alors, le dernier titre sorti, alors du coup, là, je sèche l'origine des victoires. Voilà. De nombreuses nouvelles, en particulier une uchronie qui s'appelle Tancred, et si je me souviens bien, il y a un peu plus longtemps, une variation sur la Cité du Soleil, une ancienne utopie, là, pour le coup. Mais nous ne sommes plus dans l'utopie, nous sommes dans la justice. Alors, la justice numérique, c'est quoi ? Bon, c'est pas la justesse des calculs, hein, je vous rassure tout de suite. On ne va pas corriger vos multiplications ici. C'est plutôt l'idée que... nous avons envie d'un juge inhumain. Et il y a des anecdotes du monde réel qui confirment ce genre de choses. Par exemple, quand dans l'État français, on a mis en place des radars qui mesuraient les excès de vitesse. Et que ces radars se sont mis, donc, qui était le début de la chaîne, un processus automatisé pour envoyer automatiquement les contraventions aux contrevenants. Les gens se sont mis à respecter beaucoup plus les limitations de vitesse. On a mesuré ça. Il y a eu moins de morts, mais il y a eu aussi une diminution très nette de la vitesse moyenne sur les autoroutes françaises, qu'on a attribué, à tort ou à raison, au fait que l'automobiliste, en face d'une justice et d'une police entièrement automatisée, avait confiance dans le fait, cette fois-ci, que ses voisins automobilistes ne feraient pas sauter leur contravention. Et du coup, ils disaient, tant pis, moi aussi, je peux respecter la loi. C'est un point de vue, c'est un détail. En fait, la question de l'informatisation de la justice est une question à la fois courante dans le monde actuel, puisque on a de plus en plus de logiciels commerciaux, aux États-Unis en particulier, qui sont vendus pour aider aux recherches de jurisprudence, bien entendu, mais même à l'établissement au sentencing, enfin à l'établissement d'une peine. Alors, c'est toujours la décision, c'est toujours entre les mains de juges humains, mais il y a des outils d'assistance à la décision qui sont maintenant qui sont utilisés. Et puis, bien sûr, nous avons tous à l'esprit les exemples de la science-fiction, depuis La Cité du Grand Juge de Van Vogt. Qui lui est humain, mais dans un autre de ses livres, La machine des jeux, joue un peu le rôle d'un juge mécanique. Et on peut en trouver certainement beaucoup d'autres en cherchant un peu. Notre première question, c'est finalement... c'est pourquoi mon cerveau a-t-il besoin d'un cerveau mécanique ici ? Pourquoi avons-nous envie, pourquoi avons-nous envie d'un juge inhumain ? Ou est-ce qu'on en a vraiment envie d'un juge inhumain ? Est-ce que en mettant en place un juge inhumain, on ne remet pas dans les mains d'une machine qu'on ne sait pas analyser un des trois pouvoirs sur lesquels se fonde la société, le pouvoir judiciaire. Et je suis sûr que nos invités vont nous parler de ça. Et peut-être que je vais envoyer Hugo au feu en premier, parce qu'il est juriste, alors voilà, il faut qu'il expie.
Oui, il faut que j'expie. La victime expiatoire de René Girard, c'est moi ce soir. Ok, merci pour cette belle introduction. En plus, vraiment, bien, avec les bonnes références et tout ça, donc impeccable, il nous a bien positionnés. Est-ce que l'humanité a envie d'un juge inhumain? Oui. Est-ce que ça fait longtemps? Oui. Moi, la réponse que je vous donne en tant qu'historien du droit, c'est que on a toujours rêvé d'un juge parfait, et comme l'humain est imparfait, on a toujours cherché des juges inhumains. Donc avant de chercher un juge numérique, on a cherché d'abord une justice divine, tout simplement. Et donc dans l'histoire des systèmes juridiques, tels que je l'enseigne à mes étudiants, tels qu'on essaye encore de lui trouver une place dans leur culture juridique, qui est de plus en plus tournée vers le droit des affaires et des questions beaucoup plus complexes et beaucoup plus importantes que l'histoire du droit, on voit bien que l'humanité a toujours rêvé de la justice divine, de la justice parfaite. Ça remonte au plus ancien polythéisme, hein, les dieux grecs, les dieux romains jugés, sans appel. Le premier jugement, c'est le plus expéditif de tous, c'est celui de Prométhée, condamné par Zeus pour lui avoir désobéi, condamné par Zeus pour lui avoir, pour avoir donné le feu aux hommes, avec tout ce que symbolisait le feu, la capacité à créer des civilisations, la capacité à s'affranchir de la divinité, etc. Et le jugement de Prométhée, il est expéditif. Zeus, qui est le plus puissant de tous les dieux, qui a triomphé des titans, ordonne à Héphaïstos d'enchaîner et de condamner et d'exécuter la sentence directement sur Prométhée, qui va être enchaîné sur une montagne, peut-être le Caucase ou une autre, peu importe. Et ça, c'est la première justice, la justice la plus parfaite, c'est la plus expéditive. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, qui est Zeus. Il y a un accusé Prométhée, une sanction immédiate, il n'y a pas de juré, il n'y a pas de droit de la défense, tout ça c'est de la foutaise, et une sanction qui est appliquée du simple effet du pouvoir divin. Voilà, donc ça, c'est la justice parfaite des dieux. Mais le polythéisme n'a pas l'apanage de ça, parce que lorsqu'arrive le monothéisme, et lorsqu'arrive ce rapport différent entre droit et religion, eh bien on a aussi l'idée, dans la plupart des monothéismes, que la justice est inspirée de Dieu et que seul Dieu, le Dieu unique, le seul Dieu, le Dieu berger, le Dieu, que ce soit celui du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, seul Dieu peut juger véritablement. Et là, le modèle le plus simple, c'est celui du christianisme, qui évidemment a toujours considéré que le jugement dernier, c'est le seul jugement qui vaille. Ça veut dire que tous nos jugements sont imparfaits, que la justice humaine est imparfaite, que la justice humaine est contingente et que quelle que soit la manière dont vous avez rencontré la justice dans votre vie, le seul jugement qui compte, c'est celui de Dieu et il viendra à la fin des temps. Voilà. Donc la justice inhumaine, on la connaît depuis très très longtemps et on n'a pas eu besoin des machines et de la numérisation justement pour la connaître. Voilà, ça c'est ma réponse d'historien du droit.
Dans la même idée en fait, en Égypte, on m'entend là ? Oui. Dans la même idée, en Égypte ancienne, en fait, à la fin de la vie, en fait, quand le défunt passait le cap, on pesait simplement l'âme. Et en fait, la balance, c'était la mat. Et selon dans quel sens elle penchait, en fait, on était jugé pour traverser ou non l'au-delà, en fait, à bord de la barque sacrée.
Absolument.
C'est la même chose, le poids de l'âme. En fait.
L'âme était dans le cœur, en plus. Ce qui montre toute la grâce et la poésie des Égyptiens qui comprenaient que la conscience était dans le cœur et non pas dans la tête. Le cerveau, je vous rappelle que les Égyptiens, c'est ce qu'ils ont levé en premier. On le sortait par les narines et on le remplaçait par des fleurs. Mais l'âme était dans le cœur. On pesait le cœur, ouais, du défunt.
Olivier. Alors moi, je vais pas parler de Dieu et de divinité. Je vais être plus prosaïque, parler de sciences politiques. Je crois que le problème de la machine et de la justice, c'est aussi que, admettons que l'on puisse créer cette machine qui juge. Le problème, c'est que la justice, c'est un instrument social. C'est lié à la société et c'est lié à l'évolution de la société. Si on prend quelque chose comme la législation sur l'avortement, en fait, avant que l'avortement soit légalisé, il y a eu un moment où donc, il y avait des procès contre les avorteurs, contre les avorteuses. Et donc, il y a eu un moment où la justice a dû tenir compte de l'évolution de la société. Et donc, on a commencé à modifier les jugements en fonction de l'évolution de la société. Donc, finalement, le problème d'une justice créée par une machine, c'est qu'il faudrait qu'elle tienne compte de l'évolution de la société. Or, c'est le droit qui se fait, hein, puisque c'est le droit qui se juge, qui montre l'évolution de la société. Donc, on peut pas tenir compte de la société, c'est le droit qui produit l'évolution, qui tient compte de l'évolution.
Vas-y. Non, vas-y. Pour ajouter ça, tout à fait d'accord avec Olivier, en précisant encore, en allant encore plus loin, c'est-à-dire que la législation et la justice sont deux choses très différentes. Hein. Vous avez cette expérience, vous la connaissez tous. Vous avez une législation que vous respectez, la loi. C'est le principe du respect de la loi, du respect de la légalité. Mais vous vous rendez bien compte que lorsque la loi est appliquée à des cas particuliers, quand c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez avoir un sentiment d'injustice. Il y a donc une différence entre la justice et la loi. Ça n'est pas la même chose. La loi maintient la société en ordre. La justice est l'application difficile et évolutive à des cas particuliers. Alors effectivement, tout à fait d'accord avec toi, si la machine est parfaite, elle va chercher une société parfaite. Et dès lors, on perd cette capacité à se juger nous-mêmes en réalité. Donc une justice parfaite, c'est presque un oxymore. Il n'y a pas de possibilité. Seuls les dieux se jugeraient parfaitement, et encore faudrait-il qu'ils se jugent eux-mêmes. Donc on ne peut, dans mon sens d'historien du droit, hein, je le dis vraiment là à titre très personnel, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'il ne faut pas rêver une justice parfaite. Parce que rêver une justice parfaite, c'est nier le rôle même de la justice, en réalité.
Voilà, pour ramener ça un tout petit peu à la science-fiction ou space opéra, en fait j'ai lu dernièrement une trilogie de science-fiction de Alastair Reynolds, où les colons voyagent pendant des siècles dans l'espace. Il y a énormément d'intelligence artificielle, mais les juges sont humains. C'est-à-dire que les juges se succèdent, ils vivent très longtemps parce qu'en fait, on a prolongé la vie des humains. Et c'est une question que je m'étais aussi posée par rapport justement à un voyage intersidéral, etc., qui dure très longtemps. Et lui, et en fait, dans son roman, en fait, c'est je ne sais plus le nom du roman en question, c'est... Les enfants de Poséidon, voilà, c'est la Terre bleue de nos souvenirs, ça c'est le premier, etc. Dans le tome 2, justement, on est à bord de ce vaisseau spatial qui navigue à travers le cosmos pendant des siècles, et les juges sont des juges humains qui se succèdent, en fait. Il n'y a pas de juge d'intelligence artificielle au niveau du jugement. C'est juste ce que je voulais dire.
Si je peux me permettre, pour continuer sur la science-fiction, on en parlait de la trilogie du Melkin. Dans le Melkin, en fait, mais on va revenir sur la justice, mais c'est juste le politique est pris en main par des intelligences artificielles sur les planètes. Donc, en fait, pourquoi ça fonctionne ? Parce que l'humanité, pour l'expliquer, l'humanité a quitté la Terre depuis longtemps, donc depuis des siècles et des siècles, mais pour conserver les cultures humaines, on a programmer les humains avec un principe qui s'appelle conditionnement culturel pour qu'ils soient toujours identiques aux cultures anciennes terrestres. Et donc c'est à ce moment-là que les machines peuvent avoir une utilité et peuvent fonctionner pour juger les humains, pour gérer les humains, parce qu'en fait les sociétés ne vont pas évoluer. Elles sont figées dans le temps et dans leur culture. Mais justement, là ça peut fonctionner parce que les humains ne changent pas. Alors qu'effectivement, sinon, comme les humains changent, ça ne pourrait pas fonctionner.
Quand tu dis que le politique est pris en main, tu veux dire que le pouvoir exécutif est assuré par les machines et que le législatif n'en a pas besoin parce que les sociétés sont statiques.
Statiques et qu'en fait, toute l'allocation... En fait,
les lois sont toutes déjà faites. Quoi.
Oui, et puis que, en fait, l'allocation des ressources, bon, pour faire un peu de jargon, c'est-à-dire que le politique, c'est l'allocation des ressources et des valeurs. Donc tout ça est géré par les intelligences artificielles et en fonction... De l'ensemble culturel donné.
Mais ceci étant, les intelligences artificielles peuvent parfaitement jouer un rôle dans le monde judiciaire, et donc que ce soit dans un roman de science-fiction. Parce que l'un des problèmes de la justice, c'est qu'elle elle n'est pas universelle, elle est culturelle. Elle répond à des valeurs, elle répond à des histoires sociales. La justice d'une société ne va pas à une autre société, ça on le voit souvent dans les romans de science-fiction. On a ce fameux sentiment d'injustice, d'inadaptation en fait du système, que ce soit le processus du jugement, la procédure elle-même, ou que ce soit le fondement de ce jugement. Et du coup, le rôle de la numérisation, le rôle du numérique, pourrait nous permettre de prendre conscience de ça de façon plus aiguë, de façon plus mature peut-être. Et ce qu'on pourrait appeler peut-être une justice numérique, ce serait une justice qui permettrait d'avoir plus conscience, de cette spécificité de chaque système judiciaire et justement de ne pas aller vers ce qui serait une fausse utopie, qui serait une justice universelle en réalité, qui serait probablement le contraire d'une vraie justice.
Oui, on peut écrire des algorithmes, mais les algorithmes vont être culturels. Hein, chaque justice, pour être informatisée, sera quand même dépendante de son cadre culturel. Mais je m'intéressais à une autre question. Nous savons qu'une justice n'est pas parfaite, tu l'as bien rappelé dès le début, et c'est pour ça que déjà notre idée, on est arrivé avec une mission, hein, parler de justice informatisée, justice numérique, ça prend du plomb dans l'aile. Mais on peut se dire quand même, la justice n'est pas parfaite, c'est pour ça qu'on peut faire appel. Alors comment fera-t-on appel d'une décision prise par des algorithmes à partir d'énormes bases de données?
Alors en fait, pour faire une réponse qui est pas si évidente, mais en fait qui est relativement simple en fait. Quand vous pensez à la jurisprudence, vous pensez à l'ensemble des décisions judiciaires prises au préalable par les tribunaux. Donc du coup, vous avez deux critères. C'est assez simple à comprendre. Le premier critère, c'est l'antériorité. Deuxième critère, c'est la quantité. Quand vous êtes un juge humain, et que vous regardez une jurisprudence antérieure sur une décision que vous allez devoir prendre, vous regardez la quantité des décisions qui vont dans un certain sens, ou vous regardez ce qu'on appelle en droit un précédent, c'est-à-dire la première décision qui a été prise. Et vous pouvez choisir, parce que la jurisprudence ne lie pas le juge. La jurisprudence est une aide à la décision. La jurisprudence n'est pas une contrainte pour le juge. Il peut s'inscrire dans cette jurisprudence ou au contraire s'en affranchir. Donc du coup, il peut choisir soit de s'inscrire dans la quantité, c'est-à-dire de rendre une décision qui sera semblable aux 55 autres décisions qui ont été prises, ou de créer ce qu'on appelle un précédent, c'est-à-dire une rupture, un changement de jurisprudence, et de s'inscrire là dans l'antériorité, c'est-à-dire d'être le premier à prendre une décision qui est différente. Alors de ce point de vue-là, si on j'essayais de simplifier les choses, si on a des machines qui nous permettent d'avoir accès instantanément à l'ensemble des décisions judiciaires de tous les tribunaux dans tous les pays comme une sorte de méga base de données, une sorte de big data judiciaire, eh bien ça accélérera simplement la décision du juge. C'est-à-dire que si la machine est bien faite, elle va lui fournir des statistiques extrêmement rapidement, ça raccourcira le procès, ça demandera moins d'efforts, pas intellectuels, mais d'efforts logistiques au juge, qui aura plus rapidement les informations sous les yeux et qui pourra prendre sa décision de façon peut-être plus brève. Et de ce point de vue-là, la numérisation n'est pas incompatible avec la jurisprudence.
La question, c'est, donc on a des niveaux de... Donc on peut faire appel
bien sûr,
ou une cassation.
Oui. Voilà, donc... Alors la différence, oui. Alors bon. L'appel, alors oui.
Parce que,
alors
parce que là, Hugo, tu te places avec un juge qui est différent des bases de
tout
données.
À fait. Oui.
Mais attention, pour nous, autant les bases de données et leur gestion que
sûr.
Le juge sont des algorithmes qui sont exécutés par des machines.
Oui. Mais j'ai répondu à la notion de jurisprudence, mais j'ai pas répondu à ta question sur l'appel. Alors effectivement, si ce sont des machines qui prennent des décisions sur la base d'algorithmes, l'appel perd son sens. Par contre, pas la cassation forcément, dans la mesure où la cassation peut être aussi considérée comme une sorte de travail, à nouveau de travail sur l'ensemble de l'affaire, et en particulier sur la question du droit. Hein, parce que la cassation se fait sur des erreurs de droit. Pas sur les erreurs de fait, mais sur les erreurs de droit. Donc à partir du moment où vous avez des machines qui, sur la base d'algorithmes, prennent des décisions, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de se dire qu'il y a plus de degrés de juridiction. Et donc on pourrait... imaginez, en faisant une spéculation, que l'appel disparaît. Par contre, la cassation pourrait encore continuer d'exister, puisque le droit est malgré tout dans une évolution et que, encore une fois, la législation et la justice ne sont pas la même chose. Donc la législation pourrait continuer d'évoluer, à moins que le droit soit fait aussi par des machines réputées parfaites, auquel cas on atteint la loi positive ultime, c'est le normativisme de Kelsen, et tout s'arrête, fini. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'hommes, que des machines.
Et comment ça serait géré au niveau des circonstances atténuantes? C'est-à-dire, comment la machine gérerait ça, en fait? Comme c'est des cas individuels, il y a le facteur humain, en fait. Comment ça serait géré, ça, en fait?
Là, on est dans une hypothèse, on fait une expérience de pensée, en fait. On est dans une hypothèse où ce sont des machines qui gèrent des êtres humains. C'est ça. Pas des machines qui gèrent des machines, parce que sinon, une machine qui gère une machine, je ne vois pas trop quelles circonstances atténuantes on pourrait trouver à une machine, une autre machine pourrait trouver une machine.
C'est le cas des voitures autonomes qui provoque un accident. Est-ce que c'est lié alors, à un défaut de conception, un bug?
Alors moi je vais. Alors non. Dans ce cas-là, je vais prendre la question autrement. Une machine qui a un rôle social, c'est ce que je disais dans mon cours hier. Donc c'est pas du droit là, mais une machine qui a un rôle social à jouer, elle doit avoir une faculté de jugement. Parce que si elle a un rôle social à jouer, elle est au contact des êtres humains et donc elle doit pouvoir prendre une décision imparfaite. Donc il faut créer des machines capables de prendre des décisions imparfaites. C'est-à-dire capables de prendre une décision sur la base d'un ensemble d'éléments environnementaux et internes. Une machine qui est capable de faire ce qu'on appelle une libre appréciation. Donc si une machine est capable de jugement et si elle a un rôle social à jouer, du coup elle est imparfaite. Du coup, on redécouvre la possibilité d'une circonstance atténuante.
Donc, ça ne sert à rien, en fait.
On crée une machine humaine, bien sûr. Oui. On crée une machine humaine. Oui. Voilà. Et dès lors, on revient sur la notion de circonstance atténuante qu'on peut trouver à un être humain. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de la même chose. On quitte l'utopie, le rêve de ces intelligences artificielles parfaites. Et je suis assez tenté d'être de cet avis-là. C'est-à-dire que si demain, on a vraiment des intelligences artificielles qui jouent vraiment un rôle social... et qu'elles sont capables de réflexion, capables de jugement, elles seront nécessairement imparfaites. Sinon, elles ne pourront pas s'inscrire dans la société.
Mais alors, du coup, on sera jugé par des équivalents d'humains et non plus par des machines. On est revenu à la case départ.
Non, mais à ce moment-là, ce seront simplement... Non, mais à ce moment-là, alors on revient sur une question juridique qui est le statut d'être humain. Comment on définit l'humain? Et là, c'est la question de Philippe K. Dick, brillamment traitée par Xavier Mauméjean dans son cours il y a deux jours. Les machines doivent avoir le statut d'être humain. C'est tout. Et finalement, où est le problème? Pourquoi les êtres humains, juridiquement, seraient-ils toujours biologiques? Si l'humanité se définit comme la capacité à avoir un jugement, la capacité à prendre une décision qui, en conscience, on le sait, est imparfaite, je ne vois pas pourquoi une machine n'aurait pas le droit de le faire.
Alors, moi, j'évoquerai un problème à cette question, c'est que on part du postulat que les intelligences artificielles vont raisonner ou agir comme des humains. Or, ça c'est quelque chose, en plus j'ai vu ça dans un article aujourd'hui, par exemple tout ce qui est le deep learning, hein, donc des aspects de programmation ou d'intelligence artificielle, les chercheurs découvrent qu'il y a une opacité. C'est-à-dire, il y a un processus, par exemple pour les machines d'intelligence artificielle qui font du jeu de Go, il y a un processus, on voit le résultat, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on peut se poser la question, on va avoir des intelligences artificielles qui vont prendre des décisions, mais est-ce qu'elles raisonnent comme des humains ou est-ce qu'elles raisonnent comme des machines, sachant qu'on ne sait pas comment elles raisonnent? Un juge, quand il va produire son jugement, il va y avoir une motivation. Donc, on peut savoir quelle est la motivation. Bon, dans le cas où c'est motivé, hein, mais on peut saisir la motivation. Tandis que si une machine ne rend que la décision, d'une certaine manière, comment on va savoir la motivation, puisqu'on ne peut pas remonter à son raisonnement donc, il y a un problème. Ça, tu as raison, si les intelligences artificielles sont comme des humains, donc d'où le fait de reconnaître comme des humains. Mais si on imagine qu'il y a une hétérogénéité des systèmes cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de prendre des décisions et pas simplement la manière humaine de prendre des décisions. Donc voilà, où on en est?
Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Hein. Déjà, c'est difficile de répondre sur la justice et je fais attention à ce que je dis pour éviter de vous dire des bêtises. Et sur cette question-là, ça, je ne peux pas te répondre, sinon simplement en m'en sortant juste par une pirouette, c'est-à-dire que ce sera une justice inhumaine, et donc on revient à la justice divine, c'est-à-dire que ce sera une justice des machines dont nous ne comprendrons pas les motivations. Mais ce serait un changement tellement profond de notre façon de juger, de notre façon de faire société, parce que quand on juge, quand on se juge les uns les autres, on met en action le processus qui est à la base même de la société. C'est-à-dire que la société humaine, en anthropologie juridique, la société humaine naît de la faculté de se juger. C'est la base de toute société. C'est-à-dire que si on se dénie le droit de juger, ça veut dire qu'il n'y a que la vendetta, la vengeance, que le règne de la force, et la force est antithétique du droit. Donc à partir de là, si on renonce à exercer nous-mêmes la justice, on sort complètement de ce qu'on appelle une société, à mon sens. Et si on laisse des machines nous juger sur la base d'un processus cognitif que nous ne maîtrisons pas et dont nous ne comprenons pas la motivation, c'est pour moi, c'est la fin de la société humaine.
Non, je me posais la question de ce type de, justement, de justice, si c'est pour faire une justice qui est, de machine qui est exactement similaire à la justice humaine, ça sera juste le processus plus rapide. Mais la finalité en elle-même, c'est quoi, justement? Puisque c'est pour simuler l'humain. Et au final, on se dit, bon, ben voilà, on a un juge humain et on a une machine qui va juger la même chose qu'un juge humain, certainement plus rapidement. Donc, est-ce qu'il y a une vraie finalité là derrière?
En fait, je crois qu'on est allé trop loin, en fait. On est allé un peu trop loin. C'est-à-dire qu'on imagine le pire qui n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les machines vont pouvoir aider. Non, mais la science-fiction, c'est sur le réel qu'elle travaille. Je pense que ce qui va se passer, probablement, c'est que les machines vont contribuer à résoudre un vieux problème qu'on n'a jamais été capable de résoudre dans cette société, c'est la lenteur des procès. Et en particulier, l'engorgement des juridictions par manque de moyens économiques et d'infrastructures. Parce que le principal grief qu'on fait à nos juges, contrairement à notre cher président, qui aurait mieux fait de se taire par certains côtés, même si par ailleurs je le respecte, et je trouve que l'exercice du pouvoir qu'il a dû affronter est extrêmement complexe, c'est quand il dit que les juges sont lâches. Il n'y a pas de lâcheté de la justice, il y a de l'humanité dans la justice. Et contrairement à tout ce qu'on entend dire dans le grand public, la justice dans ce pays, elle est une justice de qualité. Simplement, elle essaye de répondre à des besoins qui sont infiniment au-delà de ses capacités. En termes quantitatifs, en termes d'infrastructures, et en termes de simplement d'exigence même d'avoir un jugement rapide, net et clair. Alors, si on a des machines qui nous aident, eh bien, tout simplement, moi, je pense que ces machines permettront au procès d'être plus rapide sans être nécessairement bâclé. Et la lâcheté qui pourrait être celle auquel on aurait à faire face, c'est de refuser l'aide des machines. Parce que si on maintient les machines dans un travail algorithmique, statistique, dédié, bien ciblé, il n'y a pas de raison qu'elle ne nous aide pas à améliorer les procès, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires de première instance ou d'affaires relativement simples. Hein. Vous savez, bientôt, les avocats, pour des affaires simples, dans les cabinets d'avocats, quels avocats traitent les affaires simples? Les stagiaires. Ben oui, ce n'est pas les grands avocats qui vont traiter les petites affaires. Ils donnent ça aux stagiaires. C'est très connu, tout le monde le sait. Et les stagiaires se frappent toutes les affaires classiques, les petites affaires, les affaires très répétitives qui se ressemblent les unes les autres. Et ça, des machines peuvent accompagner ce travail-là.
On peut étendre ça aussi simplement à toutes les administrations qui sont extrêmement lentes. Il y a une centralisation, de voir à peu près tous les cas, toutes les choses et faire une centralisation. Par exemple, en Suisse, nous, on a une administration qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement lente. C'est-à-dire pour prendre une prise de décision. Et il n'y a absolument aucun recoupement entre les différentes parties si on a tel organisme qui traite ça, tel organisme qui traite ça, il n'y a absolument aucun lien entre eux. C'est-à-dire que ça arrive à des paradoxes vraiment... Voilà. Donc ça, effectivement, une centralisation de l'information, je pense que ça serait... Voilà.
Moi, je me pose une question, tout d'un coup, sur la réflexion sur la justice par les machines. Je repense à 12 hommes en colère. C'est-à-dire que la justice qu'on donne, enfin le jugement par des citoyens, c'est aussi le lien entre les citoyens et la société qui s'affirme à travers ce jugement. Et donc là, on a une lenteur, donc dans 12 hommes en colère, donc il y a une conviction pour éviter que le condamné passe à la chaise électrique. Mais donc il y a une chose importante dans le droit, c'est qu'il y a un moment, il faut faire participer le citoyen au jugement, c'est le moyen de le relier à la totalité de la société. Donc quelle est finalement, si on donne la justice aux machines, quelle est la manière que le citoyen retrouve ce lien avec la société à travers le jugement? Et là, c'est en dehors des juges humains, hein, c'est bien uniquement le citoyen. Donc ça, c'est une réflexion sur cette question-là.
C'est des questions sacrément compliquées, ça. Mais déjà, 12 hommes en colère. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on ne va pas donner à des machines des procès d'assises, quoi. D'accord ? Quand il y a un jury, le jury est là pour rappeler que le droit est au service de l'être humain et que le droit n'est pas une machine lui-même, une machine logique à produire de la logique et à produire de la contrainte et à produire de la sanction. Donc c'est pour ça qu'on a recours aux citoyens depuis la Révolution française. C'est parce que le citoyen doit intervenir au moment le plus grave, au moment le plus haut d'un procès en matière pénale, un procès en matière criminelle. Donc il est exclu, moi totalement exclu, qu'une machine fasse ça. Si une machine fait ça, pour moi, c'est la négation. Voilà. Ou alors, il faudrait que ce soit une machine à la Philippe K. Dick, pour reprendre le cours de Xavier Mauméjean, c'est-à-dire une machine qui ignore qu'elle est une machine et qui croit qu'elle est un être humain. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'il y a des citoyens qui sont des machines, qui ne savent pas qu'ils sont des machines, des androïdes, des andros, comme dit Philippe K. Dick dans Les moutons, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et à ce moment-là, comme la machine ne sait pas qu'elle est une machine, elle va réagir comme un être humain. Mais donc pour moi, ça, ce cas-là, il est exclu. Ce que je parlais, c'est plutôt des petites affaires en matière civile, etc. Voilà. Dans la réalité, je parle. Je ne crois pas qu'on arrivera à ce genre de situation-là ailleurs que dans ces expériences de pensée magnifiques que nous offre la science-fiction. Après, sur la citoyenneté, il y a un truc qu'il ne faut pas confondre. Hein. Ça, c'est toujours difficile à comprendre et à expliquer, c'est que le droit et la morale sont distincts. Le droit et l'équité dans notre société sont complètement distincts. C'est-à-dire qu'une décision juridique, et c'est nous qui l'avons choisi, hein, c'est nous qui avons voulu ce modèle social-là, c'est notre faute, hein, c'est nous qui l'avons voulu, mais une décision juridique n'est pas morale. En aucun cas, une décision juridique dans notre système de fonctionnement de société n'est faite pour être éthique. Le droit n'a pas à être éthique. Par contre, la décision des citoyens qui ne sont pas des juristes, qui ne connaissent pas nécessairement le fonctionnement du raisonnement juridique, est une décision morale, éthique. C'est ce qu'on appelle l'intime conviction, que parfois peut avoir aussi le juge, de « je pense que cet individu-là doit être acquitté » ou « je pense que cet individu-là doit être condamné ». Et dans le cas précis d'un jury de citoyens, on fait ça pour rééquilibrer le droit par l'éthique. Dans un cas d'un procès pénal. Donc si on renonce à ça, pour le compte, on renonce à la partie la plus délicate de notre système judiciaire.
Et ça veut dire qu'il faudrait trouver finalement, est-ce qu'une machine peut être morale à ce moment-là ?
Alors, une machine morale, c'est déjà encore tellement plus complexe qu'une machine juridique parce qu'il faut définir la morale. Donc là, j'espère que vous avez toute la nuit, parce que vous allez rater la cérémonie de remise des prix, parce que pour définir la morale, voilà, il faut quand même définir... c'est d'une grande complexité. Et là, moi, je peux à peu près vous expliquer comment nous, aujourd'hui, et je mets vraiment des contraintes, des limites, on définit le droit, mais la morale, c'est encore tout autre chose.
Donc dans un procès, tu imaginerais jamais en fait, que les personnes, justement les jurés, prennent la décision finale avec l'intime conviction, soient remplacées par des machines. Ça te semble totalement impossible.
Non, alors, je ne le ferai pas moi. Mais parce que vous me mettez en confrontation justement avec ce que moi j'ai appris, parce que c'est ma formation de juriste qui du coup est interrogée. Mais ce que je ferais, c'est que je mettrais une machine à la place du juge. Mais je laisserais les citoyens humains. Et la machine serait une aide à la décision des citoyens humains dans un procès pénal. Ça, je serais capable de le faire. Mais mettre des machines, des intelligences artificielles dénuées de morale à la place des citoyens, pour moi, c'est un contresens. Ce serait une erreur, même méthodologique. Quoi. Ça marcherait pas. Je le ferais pas moi, mais parce que je suis juriste. Je serais content que d'autres le fassent. Et je lirais le bouquin avec sans doute beaucoup de joie. Et voilà.
La science-fiction a imaginé bien pire. Plus la justice est rapide, plus on a tendance à la fusionner avec l'exécution de ces sentences, qui est encore autre chose, les forces de police. Et il y a déjà, il faut que je calcule, 60 ans, Robert Sheckley, par exemple, décrivait un magnifique système qui allait empêcher tous les meurtres. C'est une nouvelle qui s'appelle « Watchbirds ». Robert Sheckley a toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de talent pour voir le mauvais côté des choses. Dans Watchbirds, des oiseaux mécaniques automatisés arrêtent tous les meurtres en envoyant des décharges électriques sur les contrevenants. Mais très vite, ils commencent à envoyer des décharges électriques sur les employés des abattoirs, et puis sur le chat qui attrape les souris, et puis sur le chien qui bouffe le lapin, et la vie devient impossible. On construit des oiseaux plus gros pour tuer ces oiseaux tueurs, et ceux-là se rendent compte que finalement, tous ces humains qui grouillent, il faudrait peut-être les détruire. On est mal barré. Je crois qu'on va rendre la parole au jury citoyen en demandant des questions au public, si vous en êtes d'accord.
Tout à fait.
Alors, le micro a circulé de façon nécessairement injuste.
Du coup, je vous remercie d'avoir un peu cette vision comme quoi, effectivement, la prise de décision d'une justice ne pourra pas être rendue aux machines. En tout cas, en première instance. Je me posais la question, du coup, quel serait votre avis sur l'application de la peine, qui, elle, peut être un petit peu différente et, du coup, peut-être un peu plus mécanique que simplement une prise de position qui est, du coup, nécessairement morale.
Alors moi, je trouverais qu'au contraire, l'application de la peine est moins mécanique. En pratique, le juge d'application des peines va prendre compte de la situation, l'aménagement de la peine, comment ça se débrouille. Enfin, je trouve que, d'une certaine manière, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'application des peines ne peut être qu'humaine, puisqu'il s'agit de... Puisque finalement, une fois qu'il y a la sanction, il ne s'agit pas de condamner... On met en suspens le condamné d'une certaine manière par rapport à la société, mais il s'agit soit de le réinsérer, soit d'en faire quelque chose. Il ne s'agit pas juste de... On l'enlève. Donc, moi, je crois plutôt que l'application de la peine ne peut être qu'humaine, puisque ça ne concerne que les humains, alors que la justice, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si...
Mais je ne suis pas spécialiste de ça. Moi, je suis historien du droit, pas pénaliste. Voilà. Vous m'amenez dans des terrains, si mes collègues m'entendent, je vais me faire trucider en rentrant à Nice. Non, mais c'est vrai, en plus. Tant que je parle de science-fiction, ils sont tranquilles. Mais l'application de la peine, c'est très complexe. Hein. C'est un des enjeux les plus importants de la justice aujourd'hui. Donc, c'est sans doute quelque chose qui doit rester humain aussi, bien sûr. Sachant que la peine doit être prévue par la loi. Il n'y a de peine que légale. Donc ça veut dire qu'il ne faudrait surtout pas que les machines s'amusent à appliquer des peines qui ne sont pas prévues par les lois. Voilà. Donc c'est là bien la distinction entre la loi et la justice. Le juge doit prévoir, doit atteindre la vérité juridique, doit atteindre la conclusion de culpabilité ou de non-culpabilité. Et l'application de la peine, elle est prévue par la loi. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle la proportionnalité et la légalité des délits et des peines. Ça remonte au grec, c'est le code de Dracon en 630 avant Jésus-Christ. Donc il est hors de question qu'une machine change ça. Donc je suis assez d'accord avec Olivier. Je pense que l'application de la peine, il y a des juges d'application des peines d'ailleurs, et l'application de la peine doit rester une question humaine où les machines pourraient jouer un rôle, mais toujours un rôle auxiliaire. Mais on les a déjà, ces machines. Les bracelets électroniques, ce sont des machines. Vous savez, ce qui me gêne, moi, depuis le début aussi, c'est que quand on parle de machine, il y a une confusion. On est tellement tenté de parler d'intelligence artificielle et de robots, mais on parle aussi de machines dénuées d'intelligence et qui jouent des rôles. Toutes ces machines informatiques que tu évoquais au début, Pascal, dans ta présentation. Mais voilà, les machines d'application des peines, elles jouent un rôle. Mais pour moi, elles doivent continuer à jouer un rôle complémentaire, pas un rôle décisionnel, quoi. Je pense que... Si on veut se servir correctement des machines dans notre droit et dans notre société, il faut que les machines soient l'accessoire de la décision humaine et pas le principal.
Bien, allez, prévenu suivant.
Oula. Oula.
Ah oui, mince. Oui. Je voulais dire que d'abord, l'implication du numérique dans la décision est déjà plus ou moins en cours. C'est-à-dire qu'il y a notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, il est actuellement un algorithme qui travaille et qui rend des décisions en même temps que la Cour. Et on est à un taux de similitude d'à peu près, de plus de 80% entre la Cour et cet algorithme. Donc je ne sais pas ce qu'il compte en faire. c'est un peu effrayant, mais notamment on peut penser... Enfin, je reviens sur aussi ce que vous aviez dit à propos des procès simples. Les affaires simples ne sont jamais aussi simples que ça. Je reprendrai les mots de ma professeure de sciences criminelles à Nantes, Virginie Gautron, pour ne pas la citer, qui disait que une peine pour deux personnes différentes peut avoir des implications qui sont incalculables. Elle prenait l'exemple de deux prévenus pour consommation de stupéfiants. Donc, la peine pour consommation de stupéfiants, c'est 5 ans et 75 000 euros d'amende, ce que personne ne prend jamais d'ailleurs. heureusement. Et elle prenait l'exemple de quelqu'un qui, à 35 ans, a arrêté l'école à 16 ans et à 35 ans vit chez ses parents, ne fait jamais rien de sa vie, n'a jamais travaillé quoi que ce soit. Et d'un étudiant d'une vingtaine d'années qui est en plein dans ses études, qui se promet un brillant avenir. Les deux sont chopés pour la même chose en même temps et sont condamnés tous les deux à 5 ans de prison. Lequel va subir le plus gros préjudice ? Est-ce qu'une machine peut vraiment calculer ça ? C'est impossible.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas simple du tout. Si j'ai dit simple, je me suis mal exprimé. En fait, hein, ce n'est pas les affaires simples et complexes, dans le sens où c'est toujours complexe, puisque c'est toujours au départ, de toute façon, de l'être humain, comme vous l'avez très bien dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne s'agit pas forcément qu'une machine prenne de décisions. Hein. Moi, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que la machine peut accélérer la décision du juge, mais de toute façon, ce sera quand même le juge qui mesurera le préjudice dont vous parlez. Voilà. Concernant les algorithmes à la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que les algorithmes qui ont été mis au point sont suffisamment fins pour simuler des décisions humaines. C'est tout. Donc, pour moi, ça m'étonne. C'est pas très étonnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et là je me tourne vers les scientifiques, ceux qui programment les intelligences artificielles et les algorithmes, sont capables de simuler un raisonnement humain. Donc on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas très étonnant qu'un algorithme rende à 80% des décisions qui ressemblent à celles qu'ont rendues les juges humains. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information, comment on l'utilise, voilà, tout simplement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez très bien été formés.
Je voulais juste revenir un petit peu au début par rapport à votre discussion. On a beaucoup parlé de décisions, y compris assistées par ordinateur. On n'a pas parlé encore de plaidoirie assistée par ordinateur. Juste un petit peu au début, quand on parlait de traitement de la jurisprudence ou des cas d'antériorité. Donc, est-ce qu'on ne pourra pas arriver au bout d'un certain temps à avoir des combats d'avocats, y compris assistés par ordinateur, au point peut-être qu'ils seront remplacés par des machines, et un peu comme des machines jouent entre elles au go, aux échecs, avoir un jugement qui dépende d'une meilleure stratégie par une machine ou assistée par une machine pour que le juge puisse rendre la décision logique qui sera peut-être pas obligatoirement celle qui aurait été celle issue d'un débat d'avocat humain au départ.
Là, on est à des niveaux de complexité, c'est-à-dire que déjà les machines, beaucoup de machines, oui, en fait, dans l'apprentissage, c'est-à-dire que les machines jouent au go, enfin, le deep learning, c'est aussi ça, c'est que les machines jouent contre elles-mêmes pour progresser dans quelque chose. Là, la question, on n'est pas dans la question du progrès, c'est-à-dire que les avocats entre eux, c'est pas une question de progresser dans la décision. Ils ont le dossier, ils vont prendre les éléments du dossier, donc c'est là, une machine contre une machine, il y a les éléments du dossier. Donc là, c'est un peu plus compliqué, à mon avis, qu'une machine puisse. Qu'il y ait un combat de machine, puisqu'il y a les éléments du dossier pour que les avocats agissent. Là, ça demande, à mon avis, plus de complexité à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de progrès. On va pas avoir un combat pour arriver à celui qui a le meilleur. Qui a battu l'autre parce qu'il a trouvé un truc. C'est pas un combat justement d'épée ou choses comme ça. Chacun, les avocats présentent chacun les éléments du dossier et le juge intervient après avoir les éléments qui ont été présentés. C'est pas qui a raison à la fin.
Sans compter que les éléments sont toujours communiqués à l'autre partie. Enfin, ça c'est en principe dans notre justice aujourd'hui. Mais la question sur la plaidoirie est très intéressante parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une plaidoirie ? Parce que c'est ça qui souvent interroge le public. Qu'est-ce que c'est qu'une plaidoirie ? On dit toujours les avocats font des plaidoiries qui ne sont pas honnêtes. Et bien sûr qu'elles ne sont pas honnêtes, hein, puisqu'ils défendent leurs clients. Donc ils ne vont pas présenter une plaidoirie objective. Hein. Une plaidoirie objective, c'est un contresens, ça n'existe pas. L'avocat qui fait une plaidoirie objective doit mourir sur le champ. Parce que le rôle de l'avocat, c'est de présenter subjectivement, avec tout le talent rhétorique dont il est capable, utiliser les faits et le droit, je dis bien les faits et le droit, subvertir les deux éléments en faveur de son client. C'est ça son rôle. C'est ce qu'on appelle le rôle du défenseur. D'accord ? Donc la plaidoirie, c'est par exemple, enfin le premier qui a posé ça, c'est Protagoras dans la Grèce antique, hein, le père de la rhétorique judiciaire, qui disait avec la plaidoirie, on peut tout dire. Par exemple, Hélène de Troie n'est pas coupable. Jamais elle est coupable, Hélène de Troie, parce que si on a un bon rhétoricien, eh ben, il dit simplement, soit elle a été abusée par les dieux, et qui peut aller à l'encontre des dieux ? Soit elle a été abusée par Paris, et c'est pas sa faute, c'est la faute de Paris qui l'a manipulée. Soit elle a été abusée par l'amour, et qui peut aller contre l'amour ? Donc dans aucun cas, elle est coupable. Et le rôle de l'avocat dans la plaidoirie, c'est pas de convaincre le juge, c'est d'utiliser tous les arguments qu'il peut pour mettre dans l'esprit du juge le plus grand doute possible pour que le juge modère la décision qu'il va prendre et qu'elle soit quelque part une décision humaine, imparfaite, enfin ce que je disais tout à l'heure. Donc est-ce que des machines sont capables de plaider ? Ben, c'est un peu la même réponse que l'algorithme de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut créer des simulations, des intelligences artificielles qui vont simuler l'art rhétorique de la plaidoirie, mais c'est tout. Voilà,
Finalement, la plaidoirie est un acte créatif.
Mais bien sûr. Bien sûr.
Mais là, ça n'a aucun sens par rapport à justement prendre des machines pour faire ça. Ça n'a absolument
ça
aucun
sens.
Quoi.
De faire
c'est presque
avec
un
des
acte
machines.
Théâtral justement d'influence.
Il y a des avocats commis d'office qui sont plus brillants que des grands avocats. Hein. Et qui font leur voilà et qui donc et après attention aux représentations théoriques que vous avez. Je vous rappelle que la plupart des audiences sont ouvertes. Vous pouvez aller écouter des avocats plaider et vous vous rendrez très rapidement compte en quelques séances que c'est pas la plaidoirie la plus brillante et nous citant les grands noms et citant les grands avocats du passé qui souvent emportent la conviction du juge. Hein. Donc ça c'est pas.
S'exprimer, on a des gens là-bas. Oui. Oui.
J'avais une question. Enfin, je me demandais si vous n'étiez pas un peu trop optimiste sur le rôle futur des machines, enfin, du numérique dans la justice, parce que typiquement, l'idée de la peine plancher, c'est un jugement qui est dépourvu de tout affect. Voilà, on met. Et c'est ça, justement, une recherche. Et donc, du coup, ce que la science-fiction elle amène, c'est de montrer ce côté sombre, éventuellement, que peut avoir ce genre de décisions qui sont, en fait, extrêmement terrifiantes. Parce que le jugement, il est bourré d'affect. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas un raisonnement en droit qui ne soit pas dépourvu d'affect. Il y a du. Voilà, il y a partout. Et il disait qu'il n'y avait aucune décision simple, effectivement, parce que le juge, même les raisonnements du juge, c'est-à-dire que la jurisprudence, on étudie la jurisprudence, on peut avoir une parfaite connaissance de la jurisprudence et savoir que le raisonnement du juge, en réalité, il ne cache que des décisions qui sont des motivations qui sont cachées. Et donc voilà, et je me trouvais un peu optimiste.
Oui,
quoi. Par exemple,
sur les peines planchers, justement, c'est un bon exemple que vous choisissez, c'est-à-dire que c'est une décision sociale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, des hommes politiques pensent que pour la société, les peines planchers sont bonnes. Ce n'est pas une décision mécanique, dans le sens où c'est pas on s'est dit objectivement, la peine plancher, c'est bien. Donc là, on a débuté sur la question du lien entre justice et société, les valeurs de la société à un moment. Et que donc, pourquoi au début, on a dit que les machines ne pouvaient pas gérer la justice, c'est parce que la société évolue et qu'il y a quelque chose qui évolue du droit à ce niveau-là. Donc là, ce n'est pas le problème, à mon avis, des machines, c'est le problème de la société et des humains. C'est-à-dire que ce qu'on décide en peine plancher, c'est une décision humaine, ce n'est pas une décision de machine.
Par ailleurs, la peine plancher, c'est une décision de la loi. D'accord ? Donc, ce n'est pas une décision du juge. C'est-à-dire que le juge applique la loi. Alors, dans l'idéal des révolutionnaires de 1789, le juge n'était que la bouche de la loi. Dans l'ancien régime français, on avait ce qu'on appelait l'arbitraire du juge. Aujourd'hui, nous avons une vision extrêmement péjorative de l'arbitraire. Et c'est juste d'avoir une vision péjorative de l'arbitraire. Mais c'est restrictif. Hein. L'arbitraire, c'est aussi la capacité d'arbitrer. En anthropologie, c'est la capacité de juger, justement. D'accord ? Donc, les peines planchers se posent parce que... La question des peines planchers se pose parce que la législation évolue sur la question. Et donc, le juge, qui est tout sauf un rebelle, il n'est pas là pour changer l'ordre. Il est là pour être un acteur de l'ordre social. C'est ça, le problème du juriste. Hein. C'est que le juriste... peut faire évoluer la jurisprudence, mais il ne change pas le droit, puisque sa mission, c'est de l'appliquer. Donc un juge applique la loi applicable dans son pays, à l'intérieur des frontières territoriales de son pays, à un instant donné, qui est le présent dans lequel il doit juger l'affaire. Donc les peines planchers, il doit faire avec, s'il y a des peines planchers. Voyez. Et quant à l'affect, vous avez parfaitement raison, monsieur. Pourquoi le droit est aussi, essaye d'être aussi rigoureux, et pourquoi le raisonnement juridique, ce fameux syllogisme juridique, est aussi dénué, est aussi distinct de la morale, c'est parce que justement, il tente d'être un frein ou une limitation ou un garde-fou à l'affect. Parce qu'on est tous ici des êtres humains, sauf s'il y a des androïdes dans la salle qui font semblant d'être des êtres humains. Et ça, c'est la faute de Xavier Mauméjean. Mais donc, comme vous faites semblant, vous faites très bien semblant d'être des êtres humains, on est tous dominés par nos émotions, évidemment. Et donc, si vous n'étiez dominé que par vos émotions en l'absence de système judiciaire, il y aurait déjà plusieurs centaines de morts ici. Ne serait-ce que dans cette journée.
Voilà, parce qu'il trouve que tu parles trop. Effectivement, hein, la loi tente déjà de mécaniser le travail des juges dans une certaine mesure. Mais nous avons d'autres questions. Oui, là-bas.
Oui, pour revenir un peu à la philosophie du droit, bah vous avez parlé de ces machines qui ne sont pas qu'elles sont des machines et qui se font passer pour des hommes. Mais pour établir cette transcendance inébranlable du jugement dont vous avez parlé au début, ne serait-il pas intéressant que l'homme se fasse passer pour une machine ?
Voilà, il nous prouve qu'il n'est pas une machine en se vexant. Hein. L'homme se faisant passer pour une machine. On retombe chez Stanislas Lem, là. Hein. Ouais.
Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on aurait plus confiance en jugement d'une machine ou pour quel but exactement, en fait ?
Mais c'était un peu notre point de départ. Et on ne s'est pas demandé pourquoi nous avons plus confiance dans le jugement d'une machine. On a pris ça comme une sorte de postulat. C'est peut-être parce qu'au fond de nous-mêmes, nous pensons que l'homme est mauvais. Mais ça, c'est une question d'éducation. Mais bon, je ne crois pas qu'on va arriver à résoudre cette question-là ce soir. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions du public. Oui ?
Oui, bonsoir. Par rapport, on parlait des algorithmes tout à l'heure, mais les algorithmes agissent déjà, par exemple, sur YouTube ou sur Facebook, par rapport aux droits d'auteur ou ce genre de choses. Donc, des fois, il faut prouver que le contenu nous appartient. Ou même, des fois, on va tromper le robot en accélérant une musique ou en bidouillant l'image pour pas que le robot le détecte. Alors, ma question, c'est est-ce que voilà, si un jour la justice est donnée par des robots, est-ce qu'on pourrait pas les tromper aussi comme on peut tromper un être humain par l'affect ?
Oui, mais est-ce que l'humain se trompe et ment beaucoup plus que les machines ? Les machines, on peut encore. Il y a des choses. Je crois que c'est plus difficile entre humains que. Justement, on peut tromper YouTube parce qu'on peut repérer l'algorithme. Là, on parlait justement. C'est pour ça que j'ai parlé de deep learning et de l'opacité. Là, c'est un peu plus compliqué si les machines deviennent opaques. Mais pour les algorithmes dont vous parlez, on peut les repérer, on peut les tromper. L'humain, c'est beaucoup. On peut. Il y a des escrocs formidables. Tromper l'humain, c'est beaucoup mieux tromper que les machines. Tromper d'autres humains que les machines.
Oui, l'ingéniosité de l'humain pour se tromper lui-même doit s'appliquer aussi à tromper les machines. Je vois pas où est le problème. Ça sent-elle vécu, hein, quand même. Hein.
Oui, il y a d'autres questions ?
Alors, on parlait de... Bonsoir. On parlait de tromper les machines, mais on oublie de dire que le programmateur peut tromper la personne qui croit que l'algorithme est objectif. Qu'est-ce qui empêche de reprogrammer une machine pour qu'elle donne une décision temporairement dans le sens qui nous arrange avant de la remettre comme il était avant ? Quelle confiance pouvons-nous avoir, par exemple, dans les machines de vote électronique ?
Cryptographie quantique.
Si, les machines de vote électronique, je peux en discuter parce que j'ai travaillé sur le contentieux et le vote électronique. Donc, là, mais là, c'est de la justice du numérique, ce qui est un peu, peu plus particulier, pas la justice numérique. Donc, par rapport aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de machines du vote électronique, il y a un problème qui est lié au contentieux, justement. C'est-à-dire que le contentieux est, en France est assez particulier, notamment contentieux électoral. C'est l'un des rares contentieux où on a un lien direct entre le citoyen et le juge. Il n'y a pas d'intermédiaire, paf. Et le problème des machines, c'est que pour pouvoir juger de ce qui se passe... Alors moi, j'avais regardé justement sur tout ce qui s'était passé en contentieux aux États-Unis et autres. C'est-à-dire que, en fait, quels sont les cas ? C'est-à-dire que soit la machine se gourre totalement, c'est-à-dire elle plante, on n'a pas de résultat, on n'a pas de résultat électoral, donc ça finalement c'est assez facile, il n'y a pas de résultat d'élection, donc tout va bien. Il y a par contre une petite catégorie d'erreurs qui pose problème, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est tout ce que moi j'appelle les cas ambigus. Par exemple, un résultat électoral où tous les candidats ont le même nombre de voix, ou un résultat d'élection où un candidat a zéro voix. Ou un résultat ou un candidat à 1024 voix ou des choses comme ça. Ce que j'appelle d'erreur ambiguë. C'est-à-dire que statistiquement, les élections peuvent faire qu'un candidat ait zéro voix, que tous les candidats d'une élection peuvent avoir le même nombre de voix, même sans intervention d'une machine. Donc là, ça va modifier dans le contentieux, parce que pour déterminer si c'est lié à l'effet d'une machine ou pas, il faut un expert informatique. Et donc, il va s'introduire dans le contentieux un expert informatique qui devoir dire aux juges et aux citoyens qui ne connaissent rien en informatique ce qui s'est passé. Ça, il y a eu le cas en Belgique, ce qu'on appelle l'incident de Schaerbeek, où en fait, il y avait eu une machine qui avait fait un résultat aberrant, Dieu merci, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de résultat probant, il y avait une sorte d'aberration. Et en fait, c'était une inversion de polarité, enfin, le truc qui arrive jamais, quoi. Donc, c'est arrivé, ça. Par contre, je vous rassure sur quelque chose, c'est que dans tous les cas de contentieux liés aux machines de vote électronique, et je ne sais pas, moi j'ai arrêté de regarder en 2013 ou 2014, donc peut-être qu'il y a des cas, mais on n'a jamais pu montrer de cas de fraude ou de manipulation. Bon, sans compter que donc les machines, bon, ça bug, ça merde, pour l'instant on n'a jamais pu montrer de manipulation. Parce que sans doute, c'est pas encore super. Il vaut mieux manipuler comment ? C'est plus rentable de manipuler, par exemple, des algorithmes boursiers ou dans les banques. Ça rapporte beaucoup plus d'argent pour des hackers que le truc électoral. Mais pourquoi c'est important sur la question des machines ? C'est que ça introduit dans le contentieux l'éruption d'un expert informatique, et ça pose effectivement un vrai problème.
Là, on est encore dans des machines classiques, mais qu'est-ce que ça va être les machines quantiques, hein ? Là, ça risque d'être comique. Hein ? Ça va être autre complexité encore. Peut-être que là, on verra l'émergence à ce moment-là d'une justice quantique.
Il faudra introduire entre 0 et 1 expert. Le chat est coupable et il ne l'est pas.
Bien.
Mort et vivant en même temps.
Je crois qu'il est à peu près 19h, à moins qu'il y ait des gens qui aient vraiment quelque chose de très pressant à nous dire. On va conclure là. Merci pour votre attention. Merci aux membres de la table ronde.